Chapitre 15. Les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent troubler cette scène paisible par une plainte et une question parce que les disciples n'observaient pas la tradition des anciens quant au lavage des mains. Représentons-nous la scène. Le Fils de Dieu dispensant la guérison de tous côtés dans la plénitude de la grâce divine, et ces hommes, complètement aveugles à tout ce qui se passait, faisant irruption avec une question de convenance. Aveuglés par des formalités légales, ils sont incapables de voir la grâce divine opérante en puissance. Une telle disposition d'esprit pourrait sembler incroyable si nous n'avions pas aujourd'hui sous les yeux le même caractère manifesté par l'esprit pharisaïque qui s'attache toujours à des points secondaires touchant la tradition et l'usage commun, et non pas à la parole de Dieu claire et précise. Dans sa réponse à ces hommes, le Seigneur met l'accent sur la différence entre le commandement de Dieu et « votre tradition », verset 3. Ces traditions des anciens étaient des explications, des développements et des déductions tirées de la loi par de vénérés docteurs du passé. Elles dominaient les pensées des pharisiens et voilaient tout à fait la loi de Dieu au point qu'ils transgressaient celle-ci pour observer leur tradition. Le Seigneur le leur reproche et en donne un exemple en relation avec le cinquième commandement. Leur tradition concernant les dons, soi-disant consacrés à Dieu, annulait complètement ce commandement. Le juif pieux et orthodoxe d'aujourd'hui a l'esprit rempli du Talmud qui est bâti sur ses traditions, et c'est comme un voile cachant à son esprit la vraie parole de Dieu. Veillons à ne pas tomber dans un piège semblable. Nous pouvons nous servir avec reconnaissance des enseignements des serviteurs de Dieu, mais si nous en faisons un usage correct, nous serons ramenés à la source, à l'Écriture elle-même. Il ne serait pas difficile de transformer les enseignements des serviteurs de Dieu les plus éminents en une pure tradition. Ils deviendraient alors, pour nous, comme une espèce d'écran de fumée qui nous cacherait la parole de Dieu, tout comme le Talmud aveugle l'esprit des Juifs quant à la force réelle de l'Ancien Testament. Le Seigneur est amené à dénoncer sévèrement la gravité de cette disposition poussée à l'extrême par les pharisiens. Ils étaient des hypocrites, et il le leur dit clairement. Ils tombaient sous la dénonciation accablante d'Ésaïe, car ce type de mal religieux caractérise toujours les hommes dont le cœur est éloigné de Dieu, mais qui l'honorent des lèvres, tout en mettant leurs propres préceptes et commandements à la place de sa parole. Toute profession religieuse semblable est vide et vaine. Pourtant, aujourd'hui, un vrai croyant peut facilement se trouver entraîné dans de telles tendances. Après avoir dénoncé les pharisiens, le Seigneur s'adresse à la foule pour la mettre en garde contre l'erreur qui est à la base de cette hypocrisie. La supposition que ce qui souille les hommes leur est imposé de l'extérieur et n'est pas produit à l'intérieur, que c'est physique plutôt que spirituel. Ce qui souille un homme, c'est ce qui sort de sa bouche, l'expression de ce qui est dans son cœur. Le cœur de l'homme est la source de la souillure. Fait solennel. Un tel enseignement qui coupe à la racine toutes leurs pratiques cérémonielles choquait naturellement les pharisiens, mais cela manifestait seulement qu'ils n'étaient pas des arbres plantés par Dieu. Leur fin était d'être déracinés. Ils étaient aveugles même, et ils en égaraient d'autres qui étaient aveugles aussi. Dieu s'occuperait d'eux dans son gouvernement. Les disciples devaient les laisser et ne pas se venger. Mais ce que le Seigneur venait de dire surprend même les disciples. Aussi, Pierre demande-t-il une explication de ce qu'il appelle « cette parabole ». Il s'attire par là un reproche du Seigneur, un reproche plein de douceur. En fait, aucun d'eux ne discernait grand-chose au-delà de la lettre de la loi avec ses offrandes et ses ordonnances cérémonielles. Et ainsi, il n'avait qu'une très faible idée de sa rigueur en condamnation. Ils prenaient garde à ce qui entrait dans leur bouche, afin d'être cérémoniellement pur. La loi, prise dans son sens spirituel, s'occupe de l'état du cœur, comme le Seigneur l'a montré dans son sermon sur la montagne. Les choses mauvaises du verset 19 viennent du cœur, et il est significatif que les mauvaises pensées soient en tête de liste, car c'est de là que tout découle. Le Seigneur met ainsi à nu la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme. Dans le cas de la femme cananéenne, Il va révéler la bonté qui est dans le cœur de Dieu. La grâce divine était prête à se déverser librement, sans exception de personne, afin que gentils et juifs puissent également la recevoir. Une seule chose était nécessaire de la part du bénéficiaire, la droiture de cœur. Or, en même temps qu'elle fait appel à sa grâce, la femme s'adresse à Jésus comme au fils de David. Elle vient comme si elle appartenait au peuple d'Israël, pensant peut-être qu'en agissant de la sorte, elle avait davantage de chances d'être entendue. Il y avait en cela un certain manque de sincérité. Aussi, il ne lui répondit mot. Mais s'il y avait manque de sincérité, il y avait également tant d'insistance dans sa foi que, par ses cris, elle s'attire l'intervention des disciples. Cela nous vaut les paroles du Seigneur au verset 24, qui jette quelques lumières sur l'erreur de la femme. Elle présente alors sa requête simplement sur le terrain de son besoin, disant « Seigneur, assiste-moi ». Et le Seigneur lui répond par des paroles encore plus exerçantes. Sa mission était envers la maison d'Israël, des hommes spirituellement perdus, mais qui pourtant occupaient la place d'enfants, tandis que les gentils avaient celle de chiens, impurs et étrangers aux promesses de Dieu. Une sérieuse mise à l'épreuve. Va-t-elle abandonner les derniers lambeaux de prétention et prendre humblement sa vraie place? Elle le fait, d'une manière très frappante. Sa réponse au verset 27 revient à dire « Je suis effectivement une gentille ». Mais les hommes laissent bien des restes en suffisance pour nourrir les chiens, et je suis sûr que le cœur de Dieu n'est pas plus étroit que celui des hommes. Dans cette réponse, Jésus discerne immédiatement une grande foi, et la reconnaît en donnant à la femme tout ce qu'elle désirait. Ainsi, pour la seconde fois, il découvre une grande foi et la souligne. Dans les deux cas, le centurion du chapitre 8, et ici, c'est un gentil qui la manifeste. Dans les deux cas, elle s'accompagne de la condamnation de soi. « Je ne suis pas digne, » a dit le centurion. « Je ne suis qu'un chien, » reconnaît en fait la femme ici. Il en est toujours ainsi. Une haute opinion de soi va de pair avec une petite foi, et inversement. Examinons-nous et voyons si ce n'est pas là que réside le pourquoi de notre faible foi. Le cœur de Dieu était effectivement plus large que la femme ne l'imaginait. Tout en ayant conscience de n'être qu'un chien, elle obtient une abondance de miettes de la table. Mais bientôt le festin tout entier allait être donné au chien, car telle est la force de la déclaration de Paul en Actes 28, verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et eux écouteront. Néanmoins, beaucoup d'événements devaient encore se produire avant que cette annonce puisse être faite, et, dans notre évangile, nous voyons les débuts de la magnifique transition. Le reste de notre chapitre présente d'autres manifestations frappantes du cœur de Dieu. La grâce qui avait béni une femme d'entre les gentils est également à la disposition des multitudes d'Israël dans le besoin. Les foules n'ont qu'à amener leurs malades à Jésus et les jeter à ses pieds pour que ceux-ci soient guéris d'une manière telle que leur esprit est dirigé vers le Dieu d'Israël et qu'il le glorifie. Ce déploiement de puissance exercé en grâce divine a une attraction telle que les foules restèrent bien plus longtemps que ne le leur permettaient les provisions dont elles disposaient. Et dans leurs besoins, Jésus manifeste la même compassion. C'était une répétition de la situation rapportée dans le chapitre précédent, et pourtant, les disciples ne s'attendaient apparemment pas du tout à ce que le Seigneur agisse comme il l'avait déjà fait. Ils sont pour nous l'exemple de notre propre manque de foi. Il est comparativement facile de se souvenir de la manière dont le Seigneur a agi dans le passé. C'est bien différent de compter qu'il agira aujourd'hui, étant assuré qu'il est toujours le même. Mais notre manque de foi n'est pas un obstacle insurmontable à une intervention de sa part. De nouveau, il prend leurs maigres ressources et les multiplie de manière à les rendre plus que suffisantes. De nouveau, ils ont tous à manger et il y a des restes. Telle est la compassion du cœur de Dieu.